Lettre 77e, suite de la lettre d'Evelina, Clifton, 7 octobre. Je me suis trompé, mon cher monsieur, en vous annonçant que je ne vous écrirai plus de Clifton. Mon voyage a été différé et j'ignore jusqu'à quand. J'ai vu aujourd'hui Mylord Orville au déjeuner. Il me pria de lui accorder un moment d'entretien avant mon départ, et il me demanda la permission d'oser venir me joindre au jardin. Je ne lui répondis point. Mais il est possible que mes yeux lui aient dit que je ne désapprouvais pas cette entrevue. Il m'importait d'avoir des informations plus claires au sujet de la lettre. Je m'éclipsai donc le plus tôt possible et je montai pour faire une courte toilette. Mais avant que d'arriver dans ma chambre, j'entendis Madame Selwyn qui me criait d'en bas. « Miss Anville, si vous allez à la promenade, je vous accompagnerai. Dites, s'il vous plaît, à Jenny qu'elle m'apporte mon chapeau. » Pour éviter ce contretemps, je me glissai sans être vu, dans l'antichambre où je me proposais d'attendre tranquillement jusqu'à ce que Madame Selwyn eût pris d'autres arrangements. Mais ce projet réussit mal et je fus interrompu par Sir Clement Willoughby. Au moment où cette visite me survint, je tenais à la main la lettre que je voulais montrer à Mylord Orville. J'eus la maladresse de la laisser tomber et Sir Clement, plus alerte que moi, s'empressa de la relever. Il allait me la rendre quand, par un malheureux hasard, il remarqua la signature. Il se mit à lire tout haut le nom d'Orville. Piqué de cette indiscrétion, je voulus lui arracher la lettre, mais il eut la hardiesse de me la refuser, et comme il vit que je la redemandais avec quelque vivacité, il osa me dire « Bon Dieu, Miss Anville, se peut-il que vous attachiez tant de prix à cette épître ?» Cette question impertinente ne méritait point de réponse, mais Sir Clément n'en demeura pas là. Il se mit en devoir de serrer la lettre, et alors je lui fis entendre que j'exigeais absolument qu'il me la rendît. « Vous me direz donc auparavant, reprit-il, si, depuis cette lettre, vous en avez reçu d'autres de la même personne ?»« Non, jamais. »« Et me promettez-vous aussi, miss, que vous n'en recevrez plus de lui dans la suite ?»« Ce seul mot, ma chère, et je serai le plus heureux des hommes. »« Monsieur, il est question que vous me rendiez la lettre. »« Quoi ? Sans lever mes doutes ? Sans me tirer de l'incertitude cruelle où vous me voyez ?»« Du moins, je saurai auparavant s'il est bien vrai. » Que l'odieux Orville ne vous a écrit que cette fois. Et quel droit avez-vous de me prescrire des conditions? Que d'inquiétude, ma chère, pour cette abominable lettre. En conscience, vaut-elle la peine que vous vous en chagriniez un instant? Mais encore, monsieur, elle m'appartient, et je veux, une fois pour toutes. Je dois donc penser que le contenu mérite tout votre mépris, et qu'elle ne vous intéresse que par le nom de l'auteur. Comment? Sir Clément, vous osez des soupçons? De grâce, miss, vous rougissez, vous vous troublez. Ciel, sera-t-il vrai que mes craintes fussent fondées? Je ne sais, monsieur, ce que vous prétendez dire, mais je vous prie instamment de me rendre ma lettre et de vous modérer un peu. La lettre, ah! Je vous proteste que vous ne la reverrez plus. Il fallait la brûler le moment même où vous l'avez reçue. Et aussitôt, il la déchira en grinçant les dents. Je demeurai stupéfait des excès de ce furieux, et j'étais sur le point de le quitter, mais il me retint par ma robe. « Non, » s'écria-t-il, « vous ne vous en irez pas. Je ne suis fou qu'à demi, et vous devez achever votre ouvrage. Mylord Orville connaît-il vos sentiments? Répondez, dites oui, et je promets de vous fuir pour toujours. Au nom du ciel, laissez-moi, Sir Clément. Vous me mettez dans la nécessité d'appeler du secours. Oh, appelez, appelez, cruel !» Il vous faut des témoins de votre triomphe, qu'ils viennent. Mais vous rassembleriez ici l'univers entier, que je ne vous quitterai pas avant que vous m'ayez répondu « Encore une fois, Orville sait-il que vous l'aimez ?» En tout autre temps, une question aussi brusque m'aurait embarrassé, mais dans ce moment-ci, elle m'intimida, et je me contentais de répondre aux extravagances de Sir Clément que dans la suite, peut-être, je pourrais satisfaire sa curiosité, mais que, pour le présent, je le priais de me laisser. « Il suffit, reprit-il, je vous entends. L'artifice d'Orville l'emporte. J'ai été la dupe de son sang-froid et de son flegme, et vous l'avez rendu le plus heureux des hommes. Encore un mot, et je finis. Vous a-t-il promis de vous épouser ?» Le monstre! Cette question insolente me fit rougir d'indignation. J'eus assez de fierté pour ne pas répondre. « Je vois clair maintenant, je suis perdu pour toujours. » En prononçant ces paroles, il se frappa le front de la main, et se promena à grands pas et dans une extrême agitation. Il ne dépendait plus que de moi de sortir, mais je n'en eus pas le courage. Un mouvement de compassion me retint encore, et c'est dans ce moment que je vis entrer Madame Beaumont, suivie de Lady Louise et de Monsieur Coverley. Excusez, dit la première à Sœur Clément, si je vous ai fait attendre, mais... Elle n'eut pas le temps d'achever. Sœur Clément, trop confus pour savoir ce qu'il faisait, prit son chapeau et décampa brusquement, sans dire mot à personne. Il emporta toute ma pitié. Cependant, j'espère et je souhaite de ne pas le revoir de sitôt. Mais que faut-il, mon cher monsieur, que je pense de ses propos singuliers au sujet de la lettre? Ne dirait-on pas qu'il en est lui-même l'auteur? Comment aurait-il su, sans cela, qu'elle est d'un contenu aussi méprisable? D'ailleurs, hors sœur Clément, je ne connais aucun être vivant qui eût pu tirer quelque avantage de cette supercherie. Je me rappelle aussi qu'il passa à ma porte le moment après que j'eus donné mon billet à la servante du logis. Apparemment qu'il l'avait gagné pour lui remettre, et me faire parvenir ensuite une réponse de sa façon. Voilà la seule explication que je puisse donner à cette affaire. Oh, sœur Clément, si par vous-même vous n'étiez déjà assez malheureux, comment pourrais-je vous pardonner une ruse qui a été pour moi une source de chagrin? Son départ subit causa une surprise générale. Voilà une conduite des plus extraordinaires, s'écria Madame Beaumont. En vérité, ajouta Lady Louise, je n'ai rien vu de pareil. Cela est horrible. Cet homme a perdu la tête. Il m'a tout effrayé. Bientôt après, Madame Selwyn nous amena Mylord Merton. Elle me demanda un almanach. Je n'en avais point à lui offrir. Qui donc peut m'en donner? Monsieur Coverley. Ce ne sera pas moi, du moins. Je serais fâché de promener dans ma poche un contrôleur du temps. J'aimerais tout autant passer ma journée devant une pendule. Madame Selwyn. Vous avez raison de ne pas prendre garde au temps. Vous risqueriez qu'il vous reprochât, malgré vous, l'emploi que vous en avez fait. Monsieur Coverley. Ah, madame, si le temps ne se met pas plus en peine de moi que je ne me soucie de lui, je puis défier pour bien des années la vieillesse et les rides, qu'on me berne si je pense jamais qu'au présent. Madame Selwyn. Et qu'avez-vous besoin de me dire cela si souvent? Monsieur Coverley. Si souvent? Je vous en parle aujourd'hui pour la première fois, je ne sache pas vous l'avoir dit jamais. Madame Selwyn. Vous le croyez? Et moi je soutiens que vous me l'avez répété 100 fois par jour. Vos paroles, vos regards, vos actions, toute votre conduite le prouvent assez. Je ne sais si M. Coverley sentit ce trait de satire, mais il l'avala tranquillement. Madame Selwyn se tourna ensuite vers M. Lovell. Il lui répondit avec l'embarras que je lui remarque aussi souvent qu'elle lui adresse la parole. Je vous assure, madame, que je n'ai pas la moindre aversion pour les almanachs. J'en ai 4 ou 5 à votre service. Madame Selwyn. Oui, da, la collection est forte. Et m'est-il permis de savoir ce que vous en faites? Monsieur Lovell. N'en faut-il pas pour savoir la date? Je ne la retiens jamais. Madame Selwyn. Dans quelle heureuse indifférence vous vivez? Ne pas savoir distinguer un jour de l'autre. Monsieur Lovell. Parbleu, je fais comme tant d'autres. Madame Selwyn. Ne vous fâchez pas, monsieur, ce n'est qu'une petite digression. Je voulais savoir seulement si nous avons pleine lune, car je suppose qu'elle influe sur les têtes de notre maison. Elle me semble un peu dérangée ce matin. D'abord, j'ai entendu dire à Mylord Orville que des occupations importantes l'empêchaient de sortir, et depuis une demi-heure, je le vois qui rôde seul dans le jardin. J'avais prié Miss Anville de m'accompagner à la promenade. Je la cherche dans toute la maison. Et à la fin, je la trouve assise dans l'antichambre, les bras croisés. Il n'y a qu'un moment que Sir Clement Willoughby me dit avec sa politesse ordinaire qu'il venait passer la matinée avec nous, et je le rencontre sur l'escalier comme s'il était poursuivi par les furies. Je veux lui parler, mais il ne me répond pas, et sans faire la moindre excuse, il se sauve aussi promptement qu'un voleur qui a le guet à ses trousses. Madame Beaumont, je vous proteste que je ne comprends rien non plus à ce Sir Clément. Une telle grossièreté de la part d'un homme de condition me passe. Lady Louise. Il ne m'a pas mieux traité. J'allais lui demander de quoi il s'agissait. Il s'est enfui comme un éclair. J'en suis tout étourdi, tout effrayé. Je suis sûr que j'en suis pâle. Ne le trouvez-vous pas, Mylord Merton? Monsieur Lovell. Le teint des lys vous va à merveille, madame, et les roses en doivent rougir de dépit. Madame Selwyn. Par exemple, je serais curieuse de savoir comment vous vous y prenez pour faire rougir les roses. Monsieur Coverley. En effet, cette façon de rougir a besoin d'une petite explication. Mylord Norton. Oh, pour vous, Jack, vous ne devez pas vous en mêler lorsqu'on parle de rougir. C'est un sujet où vous êtes novice.
Madame Selwyn. Si c'est d'après l'expérience que vous parlez, Mylord, vous êtes sans contredit plus en état que personne d'approfondir la matière.
Mylord Norton.
De grâce, madame, tenez-vous-en à Coverley.
C'est là votre homme. Vous savez que je n'aime pas pérorer.
Madame Selwyn.
Fi donc, Mylord, un sénateur, un membre de la première assemblée du royaume, négliger l'art oratoire.
Monsieur Lovell.
L'étude et l'application n'est pas absolument ce qu'on exige dans la chambre haute. C'est une besogne qu'on nous laisse à nous autres communes. Et si ce n'était pas respect pour un lord, pour un de mes supérieurs, j'oserais ajouter que c'est chez nous aussi qu'on trouve les meilleurs orateurs.
Madame Selwyn.
Découverte admirable, monsieur Lovell. Mais sans votre remarque et l'aveu de Mylord Norton, j'aurais cru qu'un père du royaume et un habile logicien étaient des termes synonymes.
Mylord Norton esquiva la réponse par une pirouette et il demanda à Lady Louise s'il lui plaisait de prendre l'air avant de dîner.
« En vérité, reprit-elle, je n'en sais rien moi-même. La chaleur me fait peur et d'ailleurs je ne suis pas des mieux. J'ai les nerfs si faibles. La moindre chose les démonte. La brutalité de Sir Clément m'a totalement dérangée. Et je m'en ressentirai longtemps. Ma santé bien chétive, n'est-il pas vrai, Mylord ?»
Mylord Norton, votre constitution est délicate, mais aussi, qui voudrait d'une amazone ?
Monsieur Lovell, j'ai l'honneur d'être entièrement de votre avis, Mylord, et je me suis senti en tout temps une antipathie insurmontable pour ces femmes qui se distinguent soit par la force de leur esprit, soit par une constitution robuste.
Ces paroles furent accompagnées d'un coup d'œil malin lancé à Madame Selwyn.
Monsieur Coverley, vous avez raison, messieurs, et j'aimerais tout autant une figure de bois qu'une logicienne.
Mylord Norton,
tout homme de bon sens serait d'accord avec vous. Une femme a-t-elle besoin de quelque chose de plus pour se faire aimer que la beauté et un bon caractère? Toute autre qualité est déplacée chez elle, et je les dispense, sur ma foi, de jamais prononcer un mot raisonnable.
Madame Selwyn,
vous connaissez sans doute, messieurs, une ancienne règle qui conseille aux hommes de ne jamais s'engager avec une femme qui leur est supérieure en jugement et en connaissance. Or, d'après ce principe, on aurait de la peine peut-être à vous satisfaire tous autant que vous êtes. Je ne vois qu'une seule ressource pour vous, et c'est, si je ne me trompe, l'hôpital des fous de Swift.
Combien d'ennemis cette dame ne s'attire-t-elle pas par son goût démesuré pour la satire ?
Mylord Norton lui répondit par quelques coups de sifflet. M. Coverley fredonna un air, et M. Lovell, après s'être mordu les lèvres, ne put s'empêcher de dire que si Mme Selwyn n'était pas d'un sexe à qui l'on doit des ménagements, il serait tenté d'avouer que son extrême sévérité devient parfois un peu grossière.
Un domestique annonça une visite à Lady Louise. Cérémoniale qu'elle exige scrupuleusement. Je saisis cette occasion pour me glisser hors de la chambre. Et n'osant plus aller au jardin après les propos que j'avais entendu tenir à Madame Selwyn, je me rendis droit à la salle des visites. On y conduisit bientôt après M. McCartney qui était venu demander Mylord Orville. Il se réjouit beaucoup de me trouver seul, et il m'avoua qu'il ne s'était servi de ce prétexte que pour se procurer un moment de conversation avec moi. Je m'informai d'abord s'il avait vu son père.
« Oui, madame, et je me crois obligé de vous rendre compte de notre entrevue. » Il n'a fait aucune difficulté de me reconnaître dès qu'il a eu la lettre de ma mère.
« Grand Dieu, quel rapport entre votre situation et la mienne? Et vous a-t-il reçu avec bonté ?»
Je ne devais guère m'en flatter après l'accident malheureux qui m'a chassé de Paris.
Et sa fille, l'avez-vous vue aussi?
Non, madame, cette consolation m'a été refusée.
Et par quelle raison, je vous prie?
Peut-être était-ce par prudence, peut-être aussi par un reste de ressentiment que mon père conserve encore de l'offense qu'il a reçue. J'ai demandé la seule permission de me présenter à sa fille en qualité de frère, d'oser l'appeler du tendre nom de sœur. Mais je n'ai pu obtenir cette satisfaction.
« Vous n'avez point de sœur, » m'a dit Sir John. « Vous devez oublier qu'elle est au monde. »
Ordre bien dur, bien difficile à suivre.
« Non, vous avez une sœur, c'est moi qui vous en réponds. m'écriai-je, avec une émotion que je n'eus pas la force de contenir. Une sœur qui prend le plus vif intérêt à tout ce qui vous regarde, et à qui il ne manque que les occasions pour vous prouver son amitié et son estime. Que veut dire ceci, madame? Expliquez-vous, je vous supplie.
Mon véritable nom n'est pas en ville. Sir John Belmont est mon père. Il est le vôtre, et je suis votre sœur. Voyez si nous ne nous devons point une tendresse mutuelle. Les liens de l'amitié ne sont pas les seuls qui nous unissent. Ceux du sang nous rapprochent de plus près. Déjà, je sens pour vous toute l'affection d'une sœur, et peut-être la sentais-je déjà avant que je susse que je vous appartenais. Mais, mon frère, mon cher frère, vous ne me répondez pas. Balanceriez-vous à me reconnaître? En vérité, je ne reviens point de ma surprise. Tout ce que j'entends me paraît un songe.
Quoi?
Je vous retrouve, mon frère, et vous ne voudriez pas...
Il saisit ma main que je lui tendais.
Ah, laissez-moi plutôt. Vous demandez s'il est possible que vous daigniez m'avouer. Moi, cet inconnu, cet infortuné, qui ne connaissait d'autre ressource que votre générosité, moi, qui n'étais sauvé du précipice que par vos bienfaits.
Oh, madame, pouvez-vous, sans rougir, consentir à reconnaître ce même homme pour frère?
Cessez, cessez ce langage. Est-ce ainsi que vous devez parler à une sœur? N'avons-nous pas des obligations mutuelles à remplir? Et ne me permettriez-vous point d'espérer de votre part tous les services que vous seriez en état de me rendre?
Mais avant tout, dites-moi, où avez-vous laissé notre père?
Il est ici, aux eaux, depuis hier matin.
J'aurais poussé plus loin ces informations si Mylord Orville n'était pas survenu. Il fut un peu surpris de me trouver tête à tête avec M. McCartney, et il se serait retiré sans doute si je ne l'avais pressé d'entrer. Nous nous regardâmes tous sans rien dire, et je crois que chacun de nous fut un peu décontenancé. M. McCartney rompit enfin le silence et fit ses excuses à Mylord Orville de la liberté qu'il avait prise de se servir de ce nom. Le Lord reçut ce compliment assez froidement, et n'ayant pas jugé à propos d'y répondre, M. McCartney prit congé de nous. Dès qu'il fut loin, Mylord Orville entra en conversation. N'ai-je pas abrégé la visite de M. McCartney?
Point du tout, Mylord.
Je m'étais flatté de rencontrer Miss Anville dans le jardin, mais j'ignorais qu'elle eût d'autres engagements. Avant que j'eusse le temps de répondre, un domestique vint m'avertir que la chaise de poste était prête et que Madame Selwyn m'attendait. Je lui fis dire que j'irais la joindre dans l'instant, et effectivement, je voulus sortir. Mais Mylord Orville m'arrêtait avec vivacité. « Est-ce ainsi, Miss Anville, que vous me quittez ?»«
Que puis-je y faire, Mylord ? Peut-être une occasion plus favorable ?»«
Non, madame, ceci en est trop, malgré tout le flegme de ma philosophie.
Et où trouverai-je cette belle occasion que vous me faites espérer ? La chaise n'est-elle pas à la porte ? N'êtes-vous pas sur votre départ ? Ai-je pu savoir seulement où vous comptez vous rendre ? » ?»«
Tranquillisez-vous, Mylord. Mon voyage sera différé.
M. McCartney m'a annoncé des nouvelles qui le rendent maintenant inutile. »
M. McCartney paraît avoir beaucoup de pouvoir sur votre esprit, mais si je ne me trompe, il est bien jeune pour être votre conseiller.
Est-il possible, Mylord, que M. McCartney puisse vous donner le moindre ombrage?
Je reconnais et j'admire, très cher Miss Anville, la pureté de vos sentiments. Votre cœur est au-dessus de tout ce qui s'appelle artifice. Il ne connaît pas même les soupçons.
Ce serait vous faire injustice, ce serait me la faire à moi-même, que de douter un instant de cette bonté qui vous a captivé pour jamais mon estime.
Et malgré cela, me pardonnerez-vous si j'avoue que je suis un peu surpris, peut-être même alarmé, de ces fréquentes visites d'un jeune homme de l'âge de M. McCartney?
Mylord, il est aisé de me justifier. Ce M. McCartney est mon frère.
Votre frère? Vous m'étonnez.
Et par quelle singulière idée faites-vous un mystère de sa parenté?
Madame Selwyn entra dans le même moment.
Ah, vous voilà, s'écria-t-elle.
Mylord a-t-il la complaisance de prêter la main aux préparatifs du voyage, ou plutôt vous êtes-il à le retarder?
Je serais heureux, madame, reprit le Lord, si un tel retard ne dépendait que de moi.
Je fis part ensuite à Madame Selwyn du message que m'avait apporté M. McCartney. Aussitôt, on décommanda la voiture et je suivis Madame Selwyn dans sa chambre, où nous tînmes conseil sur le parti qu'il nous restait à prendre. Peu de minutes suffirent pour décider mon amie. Elle se mit à écrire le billet suivant. À Sir John Belmont, baronnet.
Madame Selwyn présente ses devoirs à Sir John Belmont et lui demande dans la matinée un moment d'entretien sur une affaire de très grande importance. Elle ordonna à son domestique de rendre ce billet à son adresse, après quoi elle alla trouver Madame Beaumont pour l'informer que notre voyage avait été différé. La réponse de Sir Belmont ne tarda pas à nous être rendue. La visite de Madame Selwyn fut acceptée dans la matinée même. Elle aurait désiré que je la suivisse immédiatement, mais je la suppliais de m'épargner le trouble d'une entrevue aussi peu ménagée et de m'en préparer auparavant les voies. Elle n'y consentit qu'à regret et se décida enfin à partir seule, accompagnée de son domestique. Son absence ne fut pas de 2 heures, mais ses temps me dura 1 siècle. 1000 conjectures, 1000 craintes roulèrent dans mon esprit. J'étais resté seul dans ma chambre. L'inquiétude où j'étais ne me permit de voir personne, pas même Mylord Orville. Dès que j'aperçus Madame Selwyn de ma fenêtre, je volai à sa rencontre dans le jardin. Elle me conduisit dans un des berceaux. Le mécontentement que je démêlais dans sa physionomie ne me présagea rien de favorable du succès de sa commission. Son silence augmenta encore mes appréhensions, et je lui demandai d'une voix tremblante si j'osais me flatter d'avoir retrouvé un père. « Hélas non, ma chère, » me répondit-elle brusquement. « Eh bien, madame, » repris-je assez tranquillement, « partons sans délai. Vous me conduirez à Berry Hill. Là, du moins, je serai sûr de trouver un père qui me recevra. » Lorsque nous fûmes revenus un peu de notre consternation, Madame Selwyn consentit à me rendre compte de son entrevue, et quoiqu'elle ait mis dans ce récit toute la vivacité que vous lui connaissez, j'essaierai pourtant, monsieur, de vous en rapporter les détails mot à mot. « J'ai trouvé, me dit-elle, Sir John seul dans sa chambre. Il m'a reçu avec toute la politesse possible. Je n'ai pas balancé un instant de lui annoncer le motif de ma visite. Mais il n'en fut pas plutôt instruit qu'il me demanda d'un air arrogant si j'avais pu prendre sur moi de réchauffer cette ancienne et ridicule histoire. Je lui fis sentir que le mot ridicule n'était point ici à sa place, et qu'il devait choquer tous ceux qui sont au fait des circonstances horribles de cette ancienne histoire dont il parlait avec tant de légèreté. Les actions, ajoutai-je, que je prétends vous rappeler, monsieur, seraient dignes de figurer dans le caractère atroce d'un Néron ou d'un Caligula. Il essaya plusieurs fois de tourner mes insinuations en plaisanterie, mais je poursuivis à lui représenter, avec toute la fermeté possible, l'énormité de son crime. Mes reproches le piquèrent au vif, et il s'écria avec autant de vivacité que d'impatience « Arrêtez, madame. Je n'ai besoin des conseils de personne dans l'affaire dont il s'agit. »« Réparez donc vos torts, » repris-je. « Vous en avez le pouvoir. Votre fille n'est pas loin d'ici. Elle demeure à Clifton. Faites l'avenir. Avouez à la face de l'univers la légitimité de sa naissance et justifiez ainsi la réputation d'une épouse trop longtemps outragée. « Madame, » m'a-t-il répliqué, « vous vous trompez si vous soupçonnez que j'ai attendu l'honneur de votre visite pour m'acquitter de la réparation que je devais au souvenir de cette dame infortunée. Son enfant était l'objet de mes soins depuis sa plus tendre enfance. Je l'ai recueillie dans ma maison. Elle porte mon nom et elle sera mon unique héritière. » Ce récit me parut pendant un moment trop absurde pour mériter une attention sérieuse, mais Sir Belmont m'assura très fortement que c'était à moi à qui on en avait imposé, puisque la femme même qui avait soigné Lady Belmont dans sa dernière maladie avait conduit sa fille à Londres et la lui avait remise avant qu'elle lui atteint l'âge d'un an. Dans ce temps-là, continua-t-il, je n'étais guère disposé à confirmer le bruit qui s'était répandu de mon mariage. Je fis donc partir ma fille pour la France, et je lui donnai pour surveillante la femme qui me l'avait amenée. Lorsque cet enfant fut parvenu à un âge plus avancé, je l'ai fait entrer dans un couvent, où elle a reçu une éducation convenable à son état. Je viens de la retirer, et elle vit actuellement dans ma maison, où elle jouit du titre et des droits d'un enfant légitime. De cette manière, je crois avoir payé à la mémoire de sa mère le tribut qui lui était dû. Je pense qu'il m'a coûté assez cher. Ce récit avait tout l'air d'une fable, et je ne me fis aucun scrupule de dire à Sir Belmont que je n'en croyais pas le mot. Il tira la sonnette pour demander son perruquier et me fit ses excuses de ce qu'il était obligé de me quitter, mais il m'invita de reprendre ma visite demain matin, qu'alors il se proposait de me faire faire la connaissance de Miss Belmont, au lieu de me donner la peine de la lui présenter. Je me suis levé très indigné contre lui et me suis retiré en lui annonçant que je ne manquerais pas de rendre sa conduite aussi publique qu'elle est déshonorante. Tels furent les détails que me rapporta Madame Selwyn. Jugez, monsieur, quelle impression ils firent sur moi. Je n'y comprends absolument rien. Quoi ? Cette Miss Belmont que j'ai vue à Bristol passe pour être la fille de mon infortunée mère. Elle tient la place qui est due à votre Evelina. Qui peut-elle être ? Et sur quoi prétend-on fonder une pareille imposture ? Madame Selwyn, ayant terminé cet entretien, m'abandonna à mes réflexions. Vous sentez bien, monsieur, qu'elles ne furent pas des plus gaies. J'avais écouté avec constance un récit qui n'était que trop propre à m'affliger. Dès que je fus laissé à moi-même, l'idée d'être rejeté avec tant de dureté se présenta à mon esprit dans toute sa force. Je demeurais dans cette situation mélancolique quand tout à coup la voix de Mylord Orville vint me tirer de ma rêverie. M'est-il permis d'entrer, dit-il, sans interrompre Miss Anville. Je ne m'y opposai pas et il prit une chaise à côté de moi. Je crains, Miss, reprit-il, que vous ne m'accusiez d'être importun, mais j'ai tant de choses à vous dire, tant de choses à apprendre de vous et si peu d'occasion de vous voir seule, que vous ne devez ni être surprise, ni vous offenser de l'empressement avec lequel je mets tous les moments à profit. Vous êtes sérieuse, Miss, ajouta-t-il en prenant ma main. Regretteriez-vous d'avoir différé votre voyage ? J'espère que non, et j'ose me flatter que ce qui est pour moi une source de joie ne saurait vous faire de la peine. Mais qu'avez-vous donc ? Vous êtes si pensive. Y a-t-il quelque chose qui vous afflige ? Que ne suis-je en état de vous consoler ? Puissais-je être digne de partager vos chagrins ? J'étais trop ému pour ne pas être sensible à l'honnêteté de ce procédé. Je ne pus répondre au Lord que par mes larmes. « Juste ciel, s'écria-t-il, vous m'inquiétez. De grâce, ma très chère amie, ne me cachez pas plus longtemps les motifs de vos chagrins. Souffrez que je vous aide à les supporter. Rassurez-moi, je vous supplie. Dites-moi du moins que vous ne m'avez point retiré votre estime, que vous ne regrettez point les bontés que vous avez eues pour moi. » Que je suis toujours à vos yeux, le même Orville, à qui vous avez permis de vous offrir l'hommage de son cœur. My lord, répondis-je, votre générosité m'accable. Je pleurais comme une enfant. Les espérances qui me restaient du côté de mon père étant totalement renversées, je sentis plus que jamais combien l'attachement du lord était désintéressé, et cette réflexion fut un nouveau poids pour mon cœur. My lord, ajoutai-je dès que je fus capable de parler. Vous ne savez pas sur qui votre choix est tombé. Orpheline depuis mon enfance, je ne dépends que des bontés d'un ami qui a bien voulu prendre soin de ma misère. C'est à sa pitié que je dois jusqu'à la subsistance. Je suis rejeté, désavoué par ceux à qui j'appartiens le plus près. Ah, my lord, dans ces circonstances, puis-je mériter la distinction dont vous m'honorez ? Non, non. Je sens trop douloureusement la distance immense qui nous sépare. Vous devez m'abandonner à mon malheureux sort. Je dois rentrer dans l'obscurité. J'irai retrouver mon ami, mon meilleur, mon unique ami, et je verserai dans son sein tous mes chagrins. Vous, my lord, vous placerez mieux. Je n'eus pas la force d'achever. Mon cœur frémit de l'arrêt que j'allais prononcer contre moi, et ma bouche s'y refusa. Non, jamais! S'écria Mylord Orville avec chaleur. Mon cœur vous appartient, et je vous jure un attachement éternel. Après ce que vous m'avez dit, madame, je dois m'attendre au récit le plus affligeant des cruautés qu'on vous a fait souffrir. J'y suis préparé. Mais je suis convaincu d'avance que, quelles que soient vos disgrâces, vous n'en avez mérité aucune. Oui, Miss Anville, vos malheurs vous rendent plus cher à mon cœur. Puis-je savoir où je trouverai cet ami généreux dont vous m'avez enseigné à respecter les vertus? Je volerai vers lui. Je lui demanderai son consentement à notre union et des liens indissolubles joindront désormais nos destinées. Mon unique étude sera de vous faire oublier vos maux passés et de vous venger de l'injustice du sort. Je me proposais de répondre au Lord quand j'aperçus Madame Selwyn, qui vraisemblablement avait écouté une grande partie de notre conversation. « Oui, ma chère, me dit-elle, toujours ce goût champêtre. Je croyais que depuis longtemps vous aviez quitté cette retraite solitaire, et je vous ai cherché dans toute la maison. Mais je comprends maintenant. Le moyen le plus sûr de vous trouver, c'est de s'informer de Mylord Orville. Que je ne trouble pas au reste vos méditations, vous composiez sans doute quelques pastorales. Et après nous avoir tenu ce propos piquant, elle sortira. Je voulus sortir du berceau, mais Mylord Orville me prévint. « Permettez, me dit-il, que j'aille suivre moi-même, Madame Selwyn. Il est temps de mettre fin à ces conjectures. Je lui parlerai à cœur ouvert. Si vous y consentez. » Je ne m'y opposai point et il me quitta. Pour moi, je retournai dans ma chambre et j'y restai jusqu'à l'heure du dîner. Après le repas, Madame Selwyn me demanda un moment d'entretien. Dès que nous fûmes seuls, elle me présenta une chaise et me pria de m'asseoir en m'appelant « Milady ». Je la suppliai de m'épargner. « La pauvre petite innocente, » reprit-elle, « vous ne me comprenez donc pas. Mon intention n'est que de vous familiariser avec votre nouveau titre. Il doit en effet vous paraître neuf, et vous pourriez vous y méprendre. » Après qu'elle eût joui assez longuement de ma confusion et donné pleine carrière à ses plaisanteries, elle me félicita très sérieusement sur l'attachement du Lord et m'informa qu'il lui avait témoigné le désir le plus sincère de voir notre mariage s'accomplir au plus tôt. Elle lui a raconté toute l'histoire de ma vie, et loin de s'en rebuter, il n'en a montré qu'un plus grand empressement à hâter notre union, sans attendre le résultat de nos démarches auprès de ma famille. À présent, continua Madame Selwyn, je vous conseille, ma chère, de l'épouser sur le champ. Rien de plus précaire que le succès de nos négociations avec Sir Belmont. Et d'ailleurs, il ne faut pas trop se fier aux jeunes gens de l'âge de Mylord Orville. Dans des affaires de cette importance, on ne doit pas leur laisser le temps de réfléchir. Quoi, madame, voudriez que j'usasse de surprise? Vous ferez tout ce qu'il vous plaira. Heureusement qu'il y a, de part et d'autre, un peu de don quichotisme, sans quoi vos délais pourraient tourner à votre plus grand désavantage. Mylord Orville m'a paru aussi romanesque que s'il ne fût né et élevé à Berry Hill. Elle me proposa ensuite un expédient dont elle se promet beaucoup d'effets, c'est que je l'accompagne dans la visite qu'elle doit faire demain matin à mon père. L'idée seule de cette entrevue me fit trembler, mais Madame Selwyn m'en représenta la nécessité absolue. Elle est d'avis qu'il convient de pousser cette malheureuse affaire avec vigueur, ou d'y renoncer entièrement. La force de ses raisons m'entraîna, et je me crus obligé de souscrire à sa volonté. Vers le soir, nous avons fait un tour de promenade dans le jardin. Mylord Orville ne me quitta pas plus que mon ombre. Il me dit qu'enfin on l'avait mis au fait des détails que je lui ai cachés jusqu'ici, qu'il était bien aise d'être tiré d'une incertitude qui l'avait beaucoup tourmenté, mais qu'il n'en était pas moins inquiet pour mon repos. Je l'informai aussi du plan que Mme Selwyn avait projeté pour demain matin, et je lui avouai combien j'en redoutais l'exécution. Il me pressa de lui abandonner la conduite de cette affaire et me proposa de nous unir avant cette entrevue. Je fus sensible à cette nouvelle preuve de sa générosité, mais je lui fis remarquer que je m'en rapporterais là-dessus entièrement à votre avis, monsieur, que d'ailleurs j'étais bien sûr qu'avant de prendre des engagements aussi solennels, vous me conseillerez d'attendre l'issue d'une affaire qui ne saurait plus demeurer longtemps incertaine, que cette précaution me paraissait nécessaire jusqu'à ce que je susse de l'autorité de qui je dois proprement dépendre dans la suite. Le reste de notre conversation roula entièrement sur cette redoutable entrevue et sur les craintes qu'elle m'inspire. Elle a été depuis le sujet de toutes mes pensées. J'approche donc de ce moment si longtemps attendu, si longtemps désiré, de ce moment terrible où il me sera permis de me jeter aux pieds d'un père, titre auguste et sacré que je ne prononce qu'en tremblant. Je brûle de connaître ce père, je languis de l'aimer. Oh, ciel, prête-moi ton appui dans ce moment de crise.